Grand Angle sur Radio Orient.
Vous êtes bien sur Radio Orient, le grand angle du jour, le dossier nucléaire iranien. L'Europe met ses menaces à exécution. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont annoncé avoir entamé à l'ONU la procédure de rétablissement des sanctions internationales contre Téhéran. Ils déclenchent ainsi le snapback, un mécanisme prévu dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015. Décryptage avec notre invité Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran, notamment de l'Iran, une puissance en mouvement.
Ce processus snapback, en fait, les Européens envoient un courrier au Conseil de sécurité des Nations Unies, et il y a encore un mois de délai, hein, c'est un peu la bureaucratie. Si au bout d'un mois, il n'y a pas eu de solution trouvée, ça voudrait dire que toutes les résolutions des Nations Unies et les sanctions associées qui avaient été votées, bon, je crois qu'il y en a quatre, hein, dans les années 2000-2010, contre l'Iran, seraient rétablies. Et donc notamment, il y aurait un embargo sur tout ce qui est matériel balistique et bio-nucléaire qui serait transporté vers l'Iran.
On s'en souvient, Donald Trump avait très rapidement rétabli les sanctions maximales dès les premières semaines de son premier mandat. Il avait aussi commencé à appliquer les lois d'extraterritorialité, incitant les alliés à adopter la même politique que les États-Unis sous peine de poursuite. Est-ce que c'est un scénario qui pourrait se reproduire ?
Effectivement, donc Donald Trump est sorti de l'accord sur le nucléaire, pourtant validé par une résolution des Nations Unies en mai 2018, et il a rétabli toutes les sanctions américaines. Et en fait, on n'est pas vraiment sorti de cette situation. Ce que Donald Trump a fait depuis le début de son deuxième mandat, c'est qu'il a menacé l'Iran de nouvelles sanctions. Pour l'instant, on voit pas grand-chose. Il a commencé des négociations qui se sont interrompues, qui ont été interrompues par cette guerre lancée par Israël. Donc on en est là. Les Européens ont lancé ce processus de snapback. La grande question, c'est est-ce que les États-Unis et l'Iran vont recommencer à discuter parce qu'il n'y a pas trop d'autres solutions. Et donc ça, c'est sur la question du nucléaire iranien. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on voit pas trop d'empressement, même du côté américain, pour commencer ces négociations pourtant bien nécessaires avec l'Iran.
C'est étonnant, mais est-ce qu'il y a une explication ?
J'ai déjà assez de problèmes avec l'Iran pour comprendre pourquoi Donald Trump fait ou ne fait pas quelque chose, c'est compliqué. Mais ce qu'on entend dire, c'est que commencer à négocier, c'est un peu compliqué pour lui parce qu'il a dit que tout le programme nucléaire iranien avait été détruit. Donc s'il négocie, c'est bien qu'il y a toujours un problème. Et puis, il est possible aussi que ses conseillers lui disent d'attendre, que la situation économique en Iran va devenir de pire en pire. Donc attendre que l'Iran, si vous voulez, un petit peu, entre guillemets, soit aux abois pour faciliter ces négociations. Mais c'est vrai que c'est un petit peu étonnant du fait de, par rapport à l'urgence du sujet, qu'il n'y ait pas trop d'empressement ou de signes que les États-Unis vont négocier. Alors il y a peut-être une solution, moi j'ai pas aucune idée, il y a peut-être des négociations, on va dire, secrètes en parallèle qui ont peut-être déjà commencé, ça on n'en sait rien.
L'économie iranienne, l'Iran qui bénéficie du soutien actif, très actif même de la Russie et de la Chine, cela a un impact particulièrement important, c'est essentiel pour le maintien de cette économie.
C'est vrai qu'il y a des difficultés économiques en Iran, avec une inflation qui atteint quand même 40% maintenant, une monnaie qui vient de encore se déprécier parce que les gens sont très inquiets, les acteurs économiques sont très inquiets par rapport à ces sanctions. Bon, la Chine, c'est surtout la Chine qui joue un rôle essentiel. Pour l'instant, l'Iran exporte grâce aux achats de la Chine 1 400 000 barils par jour. Alors, c'est pas autant que leur potentiel qui est de plus de 2 millions de barils par jour, mais enfin, c'est beaucoup mieux qu'à la fin du mandat de Trump. Donc, on va dire que la Chine joue un rôle vraiment capital et clé pour le maintien d'une certaine stabilité de l'environnement macroéconomique en Iran, même si, effectivement, on en a parlé, on a une croissance qui reste faible et une inflation qui atteint maintenant 40%.
Les attaques de juillet dernier, la mort de nombreux responsables iraniens, la destruction d'infrastructures également, est-ce que cela a eu un impact important pour l'économie iranienne ?
Oui, on entend. Alors, il y a eu des destructions dont vous avez parlé, mais l'impact, c'est surtout l'incertitude, parce que les acteurs économiques en Iran, en fait, personne ne sait en Iran si la guerre va reprendre ou pas. Donc il y a une situation d'incertitude qui est vraiment, comme on le sait, l'incertitude, c'est pas bon pour les projets d'investissement. Donc ça pèse énormément sur l'économie iranienne. Et en plus, il y a cette menace de réimposition de sanctions des Nations Unies. Donc le climat est plutôt à la méfiance, à l'incertitude. Et ça pèse sur les acteurs économiques, ce qui fait que certains spécialistes pensent que même l'Iran est actuellement en train de plutôt en récession, avec une activité qui est en train de baisser. Donc effectivement, on peut dire que cette guerre a plutôt un impact, a créé un climat énorme d'incertitude pour l'économie iranienne.
Le régime des mollahs est resté en place suite à ces attaques, mais on le sait, l'économie a bien entendu une influence sur l'aspect social dans un pays. Et c'est aussi peut-être une crainte de ce régime qui a connu plusieurs révolutions ou manifestations d'ampleur ces dernières années.
Oui, alors il faut également modérer ce propos. Effectivement, contrairement à ce que voulait Benjamin Netanyahou, c'est notre objectif, même si bon, il ne faut pas le reconnaître, mais c'était quand même le changement de régime en Iran. On a eu plutôt un sursaut nationaliste en Iran, et la population dans son ensemble a plutôt soutenu le régime, même si elle n'est pas d'accord avec ce qui se passe en Iran. Il y a eu vraiment un sursaut nationaliste en Iran, et donc ça, c'est, je dirais même que le régime est même plus renforcé maintenant qu'il l'était avant la guerre. Par contre, et un autre élément, c'est que la situation économique en Iran, elle est difficile depuis mai 2018, hein, depuis la sortie de Trump dans l'accord. Donc, je vous dis, la clé, c'est la Chine. Mais c'est vrai qu'il y a pour répondre à votre question, on sent une fatigue en Iran. Les gens sont fatigués de cette situation, d'avoir une inflation élevée. Il y a quand même une partie de la population qui est tombée dans la pauvreté. Il y a eu en plus des pénuries d'électricité, des pénuries d'eau. Donc, ce qu'on entend d'Iran, c'est un ras-le-bol, quoi. Enfin, pour dire les choses comme elles sont. Et donc, effectivement, il peut y avoir une crainte des autorités que, voilà, au bout d'un moment, la situation échappe à son contrôle et que le ras-le-bol conduise de nouveau à des manifestations de protestation.
Est-ce qu'il y a eu un durcissement depuis juillet dernier de la part des autorités sur la population civile?
Alors, c'est vrai que initialement, après la guerre, les autorités, le guide, ont plutôt remercié la population de son soutien. Et donc, on entendait chez les déclarations des dirigeants iraniens, il faut profiter de ce moment pour peut-être rétablir la confiance quand même ébranlée entre une majorité de la population, une grande partie de la population et le régime iranien. C'est vrai qu'on voit pas grand-chose de ce côté-là, même s'il y a eu des déclarations, notamment du président iranien, puisqu'il dit faut discuter avec nos opposants. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup d'arrestations. Alors, officiellement, elles sont quand même liées. On va dire les forces de sécurité iraniennes font un peu la chasse aux espions, parce qu'on sait que quand même il y a un gros problème de ce côté-là. Les Israéliens avaient beaucoup d'informations sur les domiciles des dirigeants iraniens, des scientifiques. Ils ont quand même mené les opérations en Iran. Donc, il y a la prise en compte en Iran. Ils ont un énorme problème. Il y avait une influence israélienne en Iran. Alors, on parle de 20 000 personnes qui ont été arrêtées. On n'a pas trop d'informations à ce sujet, mais il y a vraiment beaucoup d'arrestations liées à cette question d'espionnage. Alors, il est évident, compte tenu de la façon de faire du système politique iranien, ce climat est sans doute mis à profit pour faire peur aux opposants et arrêter un certain nombre d'opposants en continuant dans la répression. Mais a priori, ces arrestations en masse est plutôt dirigée vers ceux qui sont soupçonnés d'avoir espionné au profit d'Israël.
Et on se souvient bien entendu de l'affaire Mahsa Amini, cette jeune femme morte en détention. Elle avait été arrêtée pour un voile jugé mal porté. Cette répression vis-à-vis des femmes iraniennes, elle se poursuit aujourd'hui. Rien n'a changé pour elle.
Alors, le Parlement est plutôt radical en Iran. Il avait préparé une loi pour criminaliser le non-port du voile par les Iraniennes. Et le président iranien, c'est quasiment sans précédent, il a dit non, cette loi est absolument, on peut pas l'appliquer compte tenu de la situation économique dont on a parlé, et puis surtout que on peut pas mettre un policier derrière chaque femme. Donc il a décidé de la suspendre. Elle n'a pas été appliquée. Et moi, je suis allé en Iran là juste avant la guerre. C'est frappant en Iran. Beaucoup de femmes dans la rue ne portent plus le voile. Donc alors. Je dirais que c'est plutôt un rapport de force. Il y a une minorité de durs en Iran qui pensent que cette situation est intolérable, mais le gouvernement iranien, à mon avis, il n'a pas trop le choix, compte tenu du climat socio-économique dont on a parlé, de la volonté d'une majorité des femmes en Iran de s'habiller comme elles veulent. Donc effectivement, il y a de ce côté-là, il y a une petite révolution, ce qu'on ne voyait jamais avant. On voit maintenant de plus en plus de femmes sortir dans la rue, travailler sans le voile. Alors, c'est toujours pareil, c'est un rapport de force. Il est possible que le régime, le gouvernement, notamment les durs, mettent un tour de vis. Mais il s'est quand même passé quelque chose de ce côté-là.
Et c'est intéressant, hein, vous mettez en lumière là, le pouvoir, hein, de la société civile. Juste pour revenir au nucléaire, vous avez indiqué que Donald Trump n'entendait pas se dédire, hein, après qu'il a affirmé que les attaques israéliennes et états-uniennes avaient totalement détruit le programme nucléaire iranien. Visiblement, ce n'est pas le cas. Est-ce que l'on connaît aujourd'hui l'état de ces infrastructures?
Ben non, si vous voulez, moi je suis à Paris, il faut reconnaître que je ne sais pas qui est au courant de ce qui s'est exactement passé. Sûrement certains services de renseignement, mais ce qui est clair, ce que tout le monde est d'accord, c'est que Donald Trump a menti quand il a dit qu'il avait tout détruit. Donc, sans doute il y a eu des dommages, sans doute le programme nucléaire iranien a été ralenti. Il y a quand même toujours ces 400 kilos d'uranium enrichi à 60% qui permettraient éventuellement à l'Iran de fabriquer des bombes atomiques. On ne sait pas où ils sont passés. Et très clairement, le gouvernement iranien a choisi de maintenir l'ambiguïté dans ce domaine-là. C'est pour ça que l'arrivée des inspecteurs de l'AIEA est très importante, parce que pour l'instant, ils maintiennent l'ambiguïté. À mon avis, c'est une manière de mettre la pression pour d'éventuelles négociations avec les États-Unis, pour leur dire attention, s'il n'y a pas de négociation, nous, on peut toujours reprendre l'enrichissement de l'uranium. Mais ce dont on est à peu près sûr, c'est que le programme nucléaire iranien n'a pas été complètement détruit. Le programme d'enrichissement d'uranium a sans doute été retardé, peut-être de plusieurs années.
Merci, Thierry Coville.
Je vous en prie.
Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran, et vous êtes l'auteur notamment de L'Iran, une puissance en mouvement. C'est aux éditions Erol. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.